On va à la rencontre du syndicat CSTPFO, on vous parle aussi de la réforme des rythmes scolaires, on suit la visite de Moïte Brotherson à Singapour et on vous présente une forêt éducative. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Des fonctionnaires en discussion à Pierrehaie.
Oui, on vous en avait parlé, la CSTPFO réunit depuis ce matin au complexe de l'OPT de Pierrehaie dans ses assises de la fonction publique. Elle réunit donc les représentants du personnel de différents services de l'administration du pays. L'idée était d'avoir un état des lieux de leur dysfonctionnement et ils sont nombreux, notamment dans le secteur du social et de la santé. Alors côté social, la nouvelle directrice de la DSFE, Rava Herrerosi, a fait le déplacement pour répondre aux questions et recueillir les doléances. En revanche, côté santé, Force ouvrière attendait le ministre Cédric Mercadal. Sa chaise est finalement restée vide, comme le regrette Patrick Galnan.
C'est important que les ministres soient aussi confrontés à la réalité de la situation. Des fois, on regrette qu'ils ne soient pas là parce qu'on est des syndicalistes et puis ils ont peur de nous affronter, je ne sais pas. Comprenez bien, peut-être que monsieur le ministre, s'il n'est pas venu, c'est qu'on lui a dit peut-être de ne pas venir, je ne sais pas. En tous les cas, le gouvernement doit être attentif parce que on est les salariés, ceux qui sont à l'œuvre. Les ministres, le gouvernement donnent les directives et nous, on les applique. Mais il faut qu'on puisse les appliquer avec les meilleurs moyens que nous avons, financiers ou humains, pour qu'on puisse faire notre travail au mieux.
Alors le cabinet du ministre précise que Cédric Mercadal n'avait jamais inscrit ses assises à son agenda officiel et qu'il était retenu ce matin par d'autres obligations. En revanche, le directeur adjoint de la CPS, Vincent Dupont, était bien là et a été plusieurs fois interpellé par les représentants syndicaux, notamment les soignants des îles qui se plaignent de procédures complexes sur les EVASAN. Patrick Galnon, qui en plus d'être secrétaire général de FO, est aussi président du conseil d'administration de la Caisse de protection sociale. Il a reconnu quelques dysfonctionnements mais explique que la CPS est obligé de veiller au grain.
Nous, à la CPS, on essaye de subvenir aux besoins de la population, mais il y a beaucoup d'abus aussi. Donc il faut qu'on surveille. Par exemple, les EVASAN, vous savez, il y en a 32 000 par an, et vous avez entendu, il y en a qui viennent aussi pour aller faire leurs courses et tout ça. Et aussi, les maires font pression sur l'infirmier ou le toubib pour qu'on EVASAN les gens. Ça, on le sait. Mais entre le social et la santé, parfois, il y a des assimilations qui ne doivent pas se faire.
Voilà, du débat donc aux assises de la fonction publique de la CSTPFO qui dure jusqu'à ce soir. Le syndicat profite de cet événement pour préparer un rendez-vous important, les élections générales de la fonction publique prévues pour le 7 mai prochain.
Moïte Brotherson est au Club Med.
Oui, mais il n'est pas en vacances. Le président du pays a discuté avec les dirigeants de ce géant du tourisme au cours de sa fameuse visite à Singapour, où il doit encore rester une semaine. Invité par la direction de cette marque aux 70 hôtels partout dans le monde, le président a notamment discuté de la promotion de la destination Polynésie auprès des voyageurs singapouriens et de l'exploration de partenariats pour, selon un communiqué de la présidence, la mise en place de nouvelles installations touristiques au Fénoua. La présidence précise également que Moïte Brotherson a aussi rencontré des représentants de l'industrie alimentaire, cette fois pour parler d'exportation de produits locaux en Asie comme le coco ou le thon.
Direction Bora Bora maintenant pour une signature de contrat.
Oui, un contrat de 20 ans signé entre la commune et la Polynésienne des eaux qui va continuer à gérer les eaux usées et les eaux industrielles de la commune. Dans cet atoll à l'activité hôtelière soutenue, il s'agit d'un sujet stratégique. Bora avait été la première à mettre en place un réseau d'assainissement sous pression en Polynésie. La première aussi à installer des canalisations sous-marines vers ses motus. La première également à installer un système de filtration et de retraitement qui permet de réutiliser une partie des eaux usées pour l'activité hôtelière, que ce soit pour l'arrosage, le nettoyage ou les blanchisseries. Bref, des innovations et le contrat signé hier en prévoit d'autres. Compteurs intelligents pour surveiller le réseau et repérer les fuites, télérelèves pour aider à maîtriser la consommation, travaux anti-odeurs, meilleur traitement des boues de la station d'épuration. Au total, le concessionnaire va injecter 450 millions de francs dans de nouveaux travaux ou des renouvellements d'équipements. Écoutez Mathieu Dezestre, le directeur général de la Polynésienne des eaux.
Il y a eu des très très gros investissements qui ont été faits il y a plusieurs décennies, mais pour que ça continue d'être performant, il faut évidemment continuer à investir et renouveler les équipements pour toujours être en avance de phase. Dans un autre domaine, on va déployer l'innovation pour la première fois en Polynésie, à savoir déployer une petite boule qu'on va mettre dans les réseaux d'assainissement pour identifier les secteurs qui sont problématiques, qui nous apportent des eaux qui ne devraient pas être dans le réseau d'assainissement et qui dégradent le patrimoine, qui peuvent causer des débordements. Donc tout ça, en fait, c'est encore des solutions qui sont mises dans ce contrat pour faire de Bora Bora toujours un service public en avance dans le domaine de l'assainissement, des eaux usées et de l'industrie.
Voilà, Mathieu Dezestre qui a donc signé ce contrat pour 20 ans avec le Tavana de Bora Bora, Gaston Tongsang. La Polynésienne des Eaux, au travers de sa filiale Vaitehi, gère aussi l'eau potable de la Perle du Pacifique. Et là encore, il y a de l'investissement. Les deux responsables ont profité de la journée d'hier pour inaugurer deux nouveaux osmoseurs, des appareils qui désalinisent l'eau de mer pour la rendre propre à la consommation. 321 millions de francs d'investissement entièrement portés par le contrat de concession pour des machines de dernière génération et un nouveau local. La capacité de ces osmoseurs a été augmentée de moitié, la qualité de traitement a été améliorée, la consommation d'énergie a elle été légèrement amoindrie. Reste que les osmoseurs produisent une eau potable très chère qui n'est justifiée dans le cas de Bora que par l'importance de l'activité touristique.
Ces osmoseurs, ces équipements sont indispensables pour faire face aux besoins touristiques, aux besoins de la population, en particulier dans les périodes où il ne pleut plus. Période où en fait on ne peut pas utiliser les forages que l'on a à côté. Donc durant cette période, on se reconcentre sur les osmoseurs et si on n'a pas les osmoseurs, en effet, on sera en difficulté. Mais avant de mettre en place les osmoseurs, il faut être sûr que les réseaux ne soient pas fuyards, il faut être sûr que les gens soient vigilants sur leur consommation parce que tout ça, ça crée des surconsommations. Et surutilisation de l'osmoseur ou de la ressource.
Voilà, et à noter que Bora Bora a aussi de grands projets du côté de l'énergie, avec une ferme photovoltaïque qui va bientôt être construite sur un motu, et même le développement d'énergie thermique des mers, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler.
On poursuit par la réforme des rythmes scolaires qui interroge certains Tavana.
Oui, Simplice Yolissan et Cyril Tétouanoui ont, au nom du syndicat de promotion des communes, interpellé le gouvernement sur ce projet de réforme. Les deux Tavana regrettent de façon générale le manque d'implication des 46 communes membres du syndicat dans les réflexions et les plans qui concernent ce texte, lancé à force d'annonces et de grandes consultations par le ministère de l'Éducation, qui veut la mettre en application dès la rentrée d'août 2024. Pourtant, comme le rappelle le maire de Punaouia, les communes sont les premiers partenaires du gouvernement pour travailler au plus près de la population et sont surtout gestionnaires des établissements du premier degré vers lesquels est orientée cette réforme. Les municipalités ont aussi la charge de plusieurs services en lien avec les cours, comme le transport scolaire, les activités périscolaires, la gestion des infrastructures sportives et culturelles, ou encore la sécurité. On écoute Simplice Yolissan.
Ce que nous voulons dire, c'est que le sujet du rythme scolaire va impacter forcément le fonctionnement de nos collectivités. Nous constatons que le gouvernement discute énormément avec les parents, ce qui est une bonne chose, avec les associations, mais beaucoup moins avec les communes. La seule réunion qu'on a pu avoir, c'était en décembre dernier, une petite réunion où on a abordé un peu certaines choses, mais pas vraiment dans le fond du sujet.
Et le fond du sujet, il risque d'être complexe si le ministère de l'Éducation suit les avis des parents d'élèves. Car si ces derniers sont bien au fait des besoins de leurs enfants, ils le sont un peu moins sur les questions d'organisation de la collectivité ou d'impact budgétaire de telle ou telle option d'horaire. Les maires du SPC s'inquiètent aussi de l'idée de mettre en place des rythmes scolaires différenciés en fonction des communes et des résultats locaux de la consultation. Pour le maire de Punaouia, il y a un risque d'inéquité de traitement entre les communes et entre les familles. Car plus de temps libre en journée pour les écoliers veut aussi dire plus d'activités périscolaires à leur proposées, activités qui peuvent peser lourd sur le budget des foyers et des communes. Mais malgré tout ça, le SPC, plutôt que de dénoncer la réforme, se dit plutôt prêt à collaborer.
Pour le prouver, nous avons adressé un courrier donc au ministère de l'Éducation pour les informer que nous allons constituer des groupes de travail avec les Tavana pour travailler sur le sujet. Et nous invitons bien sûr du personnel du ministère de l'Éducation à participer avec nous pour ensemble définir le sujet et à quel titre les communes vont devoir participer. Ce qui est important, c'est que les communes sont très sensibles à l'avenir de nos enfants.
Et le Tavana propose en outre d'inclure plus largement dans les discussions les associations partenaires qui interviennent dans le périscolaire et surtout de lancer la réflexion sur les moyens qu'il faudra allouer à cette réforme. Cette question financière est le principal point bloquant pour une mise en place rapide de nouveaux horaires.
Le Dory 2 va entrer en construction.
Oui, c'est le chantier Austal qui l'a annoncé. C'est un cargo de 71 mètres qui sera construit au Vietnam pour le compte du groupe De Gage. Alors le groupe d'Eugène De Gage, pas celui de Touanoua, son fils qui a rebaptisé son entité Touatea. Eugène De Gage qui compte mettre ce nouveau navire sur la ligne des Tuamotu. Et le Dory 2, c'est un Ropax, un navire roulier mixte capable de transporter véhicules, marchandises et passagers. Il y a déjà un Dory 1, il date de 1974, il est toujours en activité. Il y avait aussi un Dory 2, mais il a coulé en 2002 au large de Makatea.
Et on termine par ce rêve olympique pour les enfants de Moréa.
Oui, pour leur dernière année de primaire, les élèves de la classe de CM2 de Teavaro à Moréa, donc, et l'association Petit Prince de Heimeho, préparent un voyage scolaire en métropole, avec un passage à Paris à la découverte de l'Assemblée, du Sénat, de l'Élysée et de la Tour Eiffel, mais surtout un déplacement à Marseille à la rencontre de leur correspondant métropolitain. Point d'orgue du séjour pour cette école très investie dans le sport, l'arrivée de la flamme olympique dans la cité phocéenne, point de départ du relais à travers la France et les Outre-mer. Une suite logique des choses pour cette école qui a été labellisée or dans le projet Génération 2024, centré autour des Jeux Olympiques, comme nous le raconte l'instituteur Yann Moello.
L'école de Teavaro est hyper active sur tout ce qui touche le sport en général. On est toujours assez réactif sur toutes les manifestations qui sont proposées, qu'elles soient nationales ou locales. Les journées, les journées de sport traditionnel, les journées olympiques, paralympiques, qui sont mises en place depuis 3-4 ans, avec ce projet de Génération 2024.
Mais à quelques semaines du départ, le budget n'est pas encore bouclé. Une cagnotte a donc été lancée. Les organisateurs ont aussi trouvé un sponsor privé et ont frappé à de nombreuses portes dans l'administration pour tenter de boucler leur budget.
Nous avons, depuis déjà le mois de septembre, essayé donc les différents ministères pour essayer de présenter notre projet et de se faire aider, ça prend du temps. Et donc, on a rempli énormément de dossiers, des dossiers de demande de subvention un peu partout, que ce soit local ou même national. On a reçu et on continue de chercher.
Voilà l'école de Teavaro qui continue de chercher des fonds si vous souhaitez les aider. On vous met le lien de leur cagnotte sur notre site radio1.pf. À ce jour, leur voyage n'est toujours pas garanti. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 16h pour le dernier flash de la journée.